Ici Jean-Dominique Leduc
et Marc Tessier. Bienvenue à Entre deux cases, édition Angoulême 2025.
Avec cette série de balados spéciales, nous vous proposons, Marc et moi, des entrevues avec différentes participantes et différents participants de la délégation québécoise, réalisées sur place, comme si vous y étiez. Frédéric Lavabre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur des éditions Sarbacane.
Oui.
Un éditeur qui a quand même, on peut le dire, un catalogue conséquent. Vous avez un très, très beau catalogue qui assurément fait l'envie de plusieurs
Merci.
Autres éditeurs.
Merci. On dit en français, vous lui faire envie que pitié.
Ah oui, ben c'est bien
c'est
ça.
C'est l'expression française.
Ah ben c'est très juste. Alors, vous avez fondé votre structure éditoriale en 2003.
Oui.
D'abord, vous avez publié des auteurs jeunesse, est-ce que je...
Oui, alors en fait, moi je travaille dans l'édition depuis déjà une quinzaine, une vingtaine d'années. J'étais directeur artistique. Et puis à 40 ans, j'ai eu envie de faire autre chose, de ne pas me répéter. Et donc, j'ai décidé de monter une maison d'édition, Ex Nihilo. Et donc, on a commencé avec mon épouse, puisqu'elle était associée avec moi d'aventure, Emmanuel, à publier des albums jeunesse, pas de BD. Et on a publié comme ça, la première année, une douzaine d'albums. À l'époque, on était diffusé par les éditions Actes Sud, belle maison. Et puis, au bout de 3-4 ans, on a commencé à publier de la BD en jeunesse, et notamment on a publié Anouk Ricard, Anna Efroga, c'est ses premières bandes dessinées, sont chez nous.
Qui vient tout juste de remporter le Grand Prix
d'Angoulême. Voilà, qui vient de remporter cette année en 2025 le Grand Prix d'Angoulême. Et voilà, donc on a fait 6 livres avec elle. Et voilà, et donc la BD a commencé à arriver comme ça, puis on a de plus en plus développé. Et aujourd'hui, la maison d'édition, on fabrique une centaine de livres par an. 30-35 bandes dessinées, une grosse quarantaine de livres jeunesse, éveil et albums jeunesse, dont Stéphane Poulin dont on parlait tout à l'heure, oui. Notre ami québécois de grand talent, dessinateur, et puis une vingtaine de romans.
À votre catalogue, vous venez d'évoquer Stéphane Poulin du côté de la production jeunesse, mais vous avez quand même, au fil des années, tisser des liens étroits avec le Québec, parce que vous avez des Québécois qui sont au catalogue.
Oui.
D'ailleurs, parlant de série jeunesse, AST, qui est dessinée par Jean-Philippe Morin. Jean-Philippe Morin,
oui.
C'est un Québécois,
oui, bien sûr.
De la ville même de Québec. On a parlé de Stéphane Poulin, Au pays de la mémoire blanche.
Oui.
Vous avez publié également Québecland.
Québecland, oui, c'était une espèce de faux guide pour les Français de voyage et surtout d'insertion au Québec. Donc c'était assez drôle.
Et ça a bien vendu chez nous, hein,
ça,
vous savez.
Oui, ça a bien vendu. Et ça a bien vendu en France aussi. J'ai fait 2-3 éditions quand même chaque année, puis on la remettait un peu à jour. Ouais. Puis après, bon, là, c'était pas fait pour durer. Mais c'est vrai que c'était y a toujours le fantasme. Les Français adorent le Québec, adorent le Canada, adorent les Québécois. Mais c'est vrai. Hein. Et je pense que les Français, il y a deux peuples qu'ils aiment, plus que peut-être les autres. C'est les Québécois et les Italiens, pour des raisons très, très différentes. Et bien, bon, je dis ça, j'en sais rien, c'est pas du tout scientifique.
Non, mais c'est vrai, nous autres, comme le plateau Mont-Royal, c'est rendu
ouais, et c'est vrai qu'il y a toujours ce fantasme de que l'herbe est plus verte ailleurs, qu'on va se réinventer. Et le Québec, comme il y a cette langue commune, et puis cette terre aussi d'imaginaire, les grands espaces, la neige, le froid, et puis une sympathie immédiate pour les
forêts,
Québécois.
Les lacs.
Les forêts, les lacs, on se dit, tiens, allez, on va aller chez ces gens, parce que nous, les Français, on est un peu ombrageux, un peu pénibles, etc. Et on se dit, avec les Québécois, ça va bien se passer, ils sont plus sympas que nous, et ils vont nous rendre sympas. Et donc, il y a une espèce de truc comme ça. Et donc, ce fameux guide du Québec, il était drôle, parce qu'à la fois, il y avait beaucoup d'humour, on se moquait beaucoup des Français aussi, mais par ailleurs, il y avait quand même quelques tuyaux, quelques trucs à faire ou ne pas faire pour avoir une installation réussie au Québec. Ouais.
Et dernièrement, d'ailleurs, vous venez d'ajouter 2 autres Québécois à votre catalogue, notamment El Diablo avec l'album Carcajou,
oui.
Que je n'ai pas, malheureusement, pas encore eu le temps de lire, mais qui me semble à vue de nez un album magnifique.
C'est un très bel album et qui a eu un très gros succès cette année, puisqu'on l'a sorti au printemps dernier, et on est à plus de 15 000 exemplaires vendus, donc c'est beaucoup pour une maison comme la nôtre, et surtout avec un dessinateur, c'est un jeune, quoi, il n'avait jamais publié avant. Et c'est une histoire qui est superbe, qui se passe au Canada dans les années 1898-1900, au mi-temps du siècle. Alors on est encore dans un espèce de western, mais en même temps, bon, on sait bien que tout ça c'est en train de changer, le Grand Ouest, enfin, le fantasme, etc. Et on se retrouve avec des attendus assez intéressants, avec la petite ville, le gars qui tient la ville, la fille de bar, et puis un gars qui est là, qui arrive, on ne sait pas trop d'où il est à moitié... alors on dit les Indiens, hein, on disait les Indiens à l'époque, oui. À moitié les Métis, et il vient en fait occuper une terre qui a été léguée par son père, et dans cette terre-là, ça regorge d'or, d'or noir, pardon, et on est entre celui qui appartient à la ville, l'espèce de maire véreux, veut absolument voir cette colline pour lui, et tous les matins, il l'a, c'est pas comme Sarkozy en se rasant, il voulait être président, lui, tous les matins en se levant, en se rasant, il voit la colline gorgée de pétrole, et le gars, il s'en fout, lui, tout ce qu'il veut, c'est chercher un peu d'or pour payer sa gnole. Et donc, en fait, c'est un livre assez politique et très intéressant, et il a très, très bien marché. Mais je pense que le fait que ça se passe au Québec, je pense que cette histoire aussi de neige, de grand espace, de western aussi, je pense que ça a participé aussi au fait qu'il a bien marché.
Oui,
il y a un super scénario aussi. Hein.
Et il y a cette fantasmagorie de l'Amérique,
oui,
de cette
sûr.
Amérique d'antan en tout cas.
Oui, et puis ce qui est drôle, c'est que nous les Français, on est persuadés que les Québécois, ce sont des Français ou des Européens, mais un peu différents. Alors qu'en fait, je pense qu'ils sont beaucoup plus Américains que Français, j'en sais rien. Et en tout cas, on a toujours ce truc de se dire, on est très proche d'eux, et on est proche de cette idée, et puis cette idée de migration possible, et plus facile parce qu'il y a la langue, parce qu'on va y être accueilli, etc. Et donc c'est vrai qu'on retrouve des choses comme ça, et dans ce El Diablo, et un gars très sympathique, je ne sais pas, vous l'avez rencontré ou pas?
Non, je n'ai pas.
Parce qu'il est sur le festival.
Oui, et il est de Montréal en plus, donc,
oui, il est de Montréal,
mais il ne s'est jamais arrivé que je le croise à ce jour.
Et c'est vrai que ce scénario est très... Il a été très sympa, il s'est mis dans les pas de dessinateur qui était tout jeune quand même, il y a près de plus de 2 ans de réalisation, parce que tout est fait à l'encre, à l'encre de Chine, et ensuite on l'a colorisé sur l'ordinateur, donc ça a été un long projet. Il était parti sur 120-130 planches, finalement il fait presque 200. Et donc je suis content qu'il ait marché, parce que quand même pour les auteurs, quand on passe autant de temps sur un album, c'est quand même mieux que ça marche. On n'y arrive pas toujours, mais enfin voilà. Et c'est vrai moi j'ai des liens assez forts avec le Canada, parce que j'ai ma meilleure amie qui habite au Canada, alors elle est dans le côté de anglophone,
ouais.
Mais c'est une amie que j'ai rencontrée en France, il y a plus de 40 ans, ma femme l'a rencontrée, elle faisait un road trip en France, on s'est rencontrés, elle est restée, c'est nos meilleurs amis, on les appelle notre famille du Canada. Donc moi c'est vrai que j'ai un lien assez fort aussi à titre personnel.
Tu viens visiter des fois?
Ah oui, je suis allé plusieurs fois au Canada, je suis allé au Québec 2 fois, et puis je suis allé surtout du côté de Vancouver, on a fait tout un road trip là-bas. Elle est de Calgary, donc on a vraiment des attaches assez fortes avec ce pays-là. Et voilà, donc on est toujours en lien. Donc pour nous, c'est une attache importante en plus.
Et en plus de Carcajou, vous venez d'ajouter à votre catalogue Géant au pied d'argile.
Oui.
Un titre que, Marc, tu as toi-même piloté au Québec à la structure éditoriale Moelle Graphique.
Bien, c'est ça, on voulait t'en parler parce que quand tu nous as écrit, tu as dit oui, parce que j'aime ça, oui, c'est un coup de cœur. Mais ce projet-là, on l'a soumis à Drone & Quarterly, à Conundrum Press. On a eu des refus.
Et tu as eu des explications, tu as eu des refus ou pas?
Ben c'est particulier. Tu sais, comme Andy Brown de Conundrum Press, je le connais bien, puis il a lu ça, puis au bout de 30 pages, il dit le personnage principal est antipathique, je suis pas capable. Il y a une réaction très émotive à l'histoire qui me dit que c'était pas habituel. J'ai trouvé ça particulier. C'est parce que moi, je l'avais lu, j'y croyais à ce projet-là. Je vois aujourd'hui qu'est-ce qui se passe avec. Toi, tu le publies, puis ça valide un petit peu ce que moi, je voyais là-dedans, qui est extraordinaire.
Ben, c'est un livre qui est très particulier. D'abord, c'est pas tellement un livre de mon catalogue, d'une certaine manière, parce que je suis plus sur des histoires, justement, comme Carcajou, des grandes histoires, dans le sens grand, dans le sens un peu...
Au souffle épique. Oui, avec du coffre.
Je suis moins sur des choses intimes, même si, par exemple, dans le cinéma, j'adore le cinéma intimiste plus que le cinéma d'aventure, on va dire. Mais c'est vrai que j'aime bien quand il y a un souffle épique, mais que derrière il y a souvent en contre-champ une histoire politique, sociale, etc. Mais jamais que ce soit porté par une dimension épique. Là, en l'occurrence, évidemment, c'est pas épique, hein, c'est l'histoire de ce grand type avec son copain, c'est deux garçons intimes.
Il y a une structure de suspense.
Il y a une structure de suspense.
Travail de détective. Ouais.
Et moi, il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé. Il y a d'abord ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y avait quelque chose pour moi, mais je peux me tromper, mais c'est comme ça que moi je l'ai lu. D'assez nord-américain dans la façon dont les hommes se positionnent par rapport aux femmes. Nous, les hommes, on est encore en France, il y a, me semble-t-il, alors moi je suis 60 ans, donc je ne peux pas parler de la nouvelle génération, mais en tout cas, j'ai trouvé que la façon dont le couple interagit, donc ils interagissent dans le couple, les relations de voisinage, etc., c'était pour moi quelque chose de... C'est à la marge, hein, c'est léger, mais ce n'est pas tout à fait ce que j'aurais pu avoir en France. Donc ça m'intéresse, parce que dès quelque chose qui est différent, je trouve ça intéressant. Un livre, c'est un voyage, quoi. Donc là, on m'a amené... Alors, c'est quelque chose que je connais, le couple que je connais, la paternité, je connais, j'ai 4 filles. La relation amicale, je connais. Les problèmes de couple, je connais aussi, comme tout le monde. Mais là, il y avait une voix un tout petit peu différente, et ça, ça m'a plu. Et puis, par ailleurs, il y avait aussi quelque chose qui m'a, moi, à titre personnel, mais de toute façon, c'est personnel de publier, hein, c'est quelque chose qui écho ou pas en vous. Il y avait aussi la dimension, la question de la violence. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'énergie, mais j'ai aussi beaucoup de violence. Et la violence que l'on transmet ou que l'on ne transmet pas, moi, c'est une question qui me questionne. Hein. Okay. Et c'est le cœur aussi du récit entre le héros et son père, puis les enfants. Et donc ça, c'est une question, moi, que je trouve hyper intéressant. Et donc, moi, je trouve ce livre-là vraiment fort. Alors, on va voir, là, il vient juste de sortir, donc c'est vraiment tout neuf. Mais on va voir comment ça se passe en presse, on va voir comment... Mais les gens qui l'ont lu ont été touchés. Moi, je suis très content d'avoir publié. Et en tout cas, je trouve que c'est un livre qui était important de publier, de mettre sur le marché français. Voilà, et puis pour le faire vivre, et puis on a été...
Mais je pense que les Américains ont eu le même feeling, parce que le fait que Marc, c'est un Américain qui s'est établi au Québec, puis Alain Chevalier, que son grand-père est français, fait que je trouve qu'il y a beaucoup de liens avec les États-Unis et la France,
oui, oui.
Mais quelque part, dans leur relation, ces deux-là, je trouve qu'il y a quelque chose d'essentiellement québécois par rapport aux femmes, tout ça,
oui, oui, oui.
Que tu ne retrouves pas nécessairement en général, oui. Aux États-Unis,
mais,
ou peut-être
mais moi,
en France.
C'est quand je vais voyager, là, par moi, je fais beaucoup de livres, en fait, là, je vais sortir un livre à cet automne qui se passe, l'histoire de Nazara, qui vient d'Iran et qui a migré, etc. Ça me raconte aussi l'histoire d'un peuple, d'un endroit, d'une région du monde que je connais mal. Et j'aime beaucoup, moi, je ne suis pas très fan, par exemple, des documentaires. Alors, j'adore les documentaires à la télé, mais en livre, je n'aime pas tellement. J'adore qu'on me raconte inversement, par contre, quelque chose qui est vécu, qui est une forme d'autobiographie, en l'occurrence pour ce livre-là. Mais en même temps, le biais qui est pris est vraiment pris à travers un biais de récit qui mêle le réel, l'imaginaire. Et je trouve que c'est dans le fond, c'est plus fort pour porter vers le public, vers soi, ou en tant que lecteur, des sujets même historiques ou politiques. Et finalement, on peut regarder, je peux dire, plein de livres dans le monde, plein d'articles dans le monde, finalement. Et c'est intéressant, et ça va être détaillé. Mais si j'ai un livre à côté qui me parle des mêmes choses, mais à travers le regard d'un auteur, une sensibilité d'auteur, eh bien souvent, me semble que je comprends mieux ce qui se passe, ce qui se joue, que plein d'articles ou plein de reportages. Et donc,
oui.
C'est ça un peu que j'ai aimé dans ce livre-là, parce que c'est pas démonstratif, c'est pas didactique, mais en même temps, on sent bien tout ce qui se joue pour lui sur la violence, l'histoire du père avec la guerre, etc.
Mais de la Deuxième Guerre mondiale, le grand-père, plus le
oui,
père,
ben, ce truc qui se c'est poursuit. Ben, c'est comme les femmes battues qui vont finalement avec leur mère était battue, elles vont avec un homme ou sur le viol, etc. Et on se rend compte qu'on répète de cette manière, ça peut être des sujets moins graves aussi, mais qu'on a tendance à répéter des comportements qu'on reprochait à ses parents, même sur des choses plus légères, et on se retrouve à faire la même chose finalement.
C'est la passation traumatique.
C'est ça.
Parce que la colère dans cet album-là fait figure de tare génétique en quelque part. Et...
Ou transmissionnel plutôt.
Oui, transmissionnel, exactement. Et,
ben, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais...
Et je trouve qu'on vit à une époque où on a du mal aussi à gérer notre colère. Les gens sont en colère partout dans le monde, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit ici en France, en Belgique. Et j'ai l'impression que cet album-là... son importance est justement là, dans cette réflexion sur comment on aborde et comment on vit et comment ben on brise le cycle.
C'est surtout que la colère, dans le temps, un homme en colère, c'est un homme viril. Pour les Russes, Poutine, c'est un homme, il n'est pas en colère, il est plus malin que ça.
Ouais.
Mais en tout cas, une forme de violence, elle peut être considérée, elle a été longtemps considérée comme quelque chose qui était bien, qui était de l'ordre de « j'ai des convictions ». Et aujourd'hui, avec le recul, dans les sociétés en tout cas où on se pose ces questions-là, eh bien, la colère, elle est plus admissible en réalité. Et moi-même, j'ai pu avoir des comportements quand j'étais jeune homme, qu'aujourd'hui je réprouverais. Sauf qu'à l'époque, je ne me rendais pas compte, puis j'avais une forme de virilisme, ou je ne sais pas quoi. qui faisait que oui, ben, c'est ma personnalité, je suis comme ça et c'est pas si mal finalement. Je suis passionné ou je sais pas quoi. On mettait des espèces de trucs comme ça, qui, pas pour s'excuser, mais pour dire voilà, c'est comme ça. Ben, aujourd'hui, non, en fait, on peut pas se comporter de cette façon-là.
Non, parce que c'est toxique.
C'est toxique et on voit ce qui se passe d'ailleurs avec le festival en ce moment, avec les histoires autour du festival. On voit bien que les comportements toxiques sont inappropriés et qu'aujourd'hui, les gens disent non. Et c'est très bien que les gens disent non. Et c'est très bien qu'on dise ben, y a des choses qui étaient admises ou en tout cas tolérées. Et aujourd'hui, ben non, c'est plus admissible. Et c'est admissible pour soi déjà, parce que la colère que le héros du livre s'inflige, ou la colère que nous on peut s'infliger à soi-même quand on est en colère, en fait elle est nocive, elle est toxique pour soi-même, et il y a d'autres chemins, mais c'est compliqué. Et c'est tout ce qui m'a intéressé dans ce livre-là.
C'est ça, comme tu disais, briser le cycle. Ben, je pense que quand tu disais, les enfants, quelque part, de leur faire mal, parce qu'il y a ça en dedans de lui, puis en même temps, tu ne veux pas transmettre, tu veux arrêter ça.
Oui, mais moi-même, j'ai eu des enfants, et je sais qu'avec mon aîné, par exemple, j'ai pu avoir des comportements violents, même de frapper, parce qu'il y avait ce truc en France, je ne sais pas au Québec, mais où les enfants étaient frappés. Alors, c'est pas. Mais moi, mon père, il avait un martinet, et donc, quand il rentrait de voyage, il demandait à ma mère, qu'est-ce qu'il a fait ? J'étais avec mes trois sœurs, et puis il sortait le martinet, et puis lui, c'était de. Voilà, c'était pas un père violent pour autant, mais c'était admis. Et moi, je sais que j'ai pu avoir au départ des comportements violents avec ma fille aînée, donc aujourd'hui, j'ai honte ou j'ai mal de ça. Et d'ailleurs, je lui ai demandé pardon parce qu'il faut pouvoir le dire et le signifier. Ouais, ouais. Ça n'excuse pas, ça n'enlève pas, mais au moins ça permet quand même d'avancer ensemble sur quelque chose. Et ça permet peut-être, en effet, que ce cycle de violence-là, eh bien, il s'arrête en tout cas. Et ça ne passera pas par moi, quoi, d'une certaine manière.
Frédéric Lavabre, on vous souhaite longue vie comme éditeur, ainsi qu'à votre structure éditoriale. Et. Vous mettez de l'avant un beau catalogue et évidemment, ben, on a un billet à l'endroit du géant au pied d'argile.
Ben oui, voilà.
Donc, d'Alain ouais, Chevarier voilà, et de Mark McGuire. Voilà, voilà. Donc bravo, c'est ben, un très bel objet.
Ben, merci beaucoup. On a sur la fabrication, on a rajouté en fait par rapport à l'édition originale, on a mis un gris Pantone.
Oui, mais Alain m'en a parlé.
Ouais, ben, on a mis deux couleurs en fait.
Puis aussi le papier est plus épais, il est ouais, plus gros, puis c'est plus beau, les sarcelles.
Et on a fait deux passages machine en ouais, fait, un noir okay, plus, qui fait que ça permet que le gris, parce que le noir encre seul peut être un peu creux, et là on en a rajouté dessous un soutien gris qui fait que les noirs sont un peu plus profonds. Ouais, ça a la marge, ça se voit pas vraiment, mais les gens qui connaissent ça,
moi, voilà. Moi je l'ai vu tout de suite, je dis Alain, ça pop tes affaires.
Ah, c'est comme un bon plat en fait, il y a un truc que le mec a mis, vous savez pas ce que c'est, mais si vous le mettez pas, dites tiens c'est moins bon. C'est un peu de la cuisine. Hein.
Ben, Frédéric Lavabre, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et
merci
bon
beaucoup.
Festival. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre notre couverture du Festival Angoulême édition 2025, rendez-vous au jeandominiqueleduc.ca/tribune/catégorie/angoulême-2025. Certes, c'est long, mais ça vaut le coup.